De vive voix. De vive voix, spécial JO, Laurence Garcia.
Bienvenue à vous dans De Vive Voix en mode de culture et sport. Durant toute cette période des JO, nous conjuguons comme d'habitude le muscle et la plume, la culture physique et la culture tout court. Pour ce quatrième épisode, notre invité c'est le chanteur Arthur Ashe. C'est un fan de la poésie noire d'Aimé Césaire, mais aussi de la boxe de Mohamed Ali. Pour Arthur Ashe, la musique comme le sport, vous allez le voir, c'est une façon d'échapper au réel et de se reconnecter à nos imaginaires loin, très loin, très loin des écrans. De vive voix spéciale JO, c'est parti. Bonjour Arthur Ashe.
Bonjour.
Alors on vous connaît poétique, on vous connaît onirique, mélancolique, surréaliste, métaphorique, mais pas forcément sportif, hein, on va voir ça avec vous. Alors Arthur Ashe, vous qui êtes un expert en métaphore justement, quel parallèle vous faites, vous voyez entre le monde du sport et celui de la musique, entre la scène et le stade ?
Eh ben, il y a une chose en commun qui est très très forte, c'est le mouvement. C'est le mouvement, la pulsion de vie, courir, se dépasser, créer tout ça. C'est toujours le mouvement de la vie qui nous traverse. C'est le contraire de l'immobilité. Donc, on peut dire que le sport serait plus physique, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'on sait que les grands sportifs ont un mental très très acéré, très très puissant, très fort, très réfléchi, très conscient.
Ouais.
Alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les musiciens.
Ah, et vous
Mais
alors ?
Ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect imaginaire, en fait, est très très important aussi. Et il n'y a pas évidemment que l'aspect, il n'y aurait pas quelque chose qui serait purement physique, ça n'existe pas. On est des êtres mentaux et de conscience.
Est-ce qu'on peut y voir aussi un exutoire, une façon d'échapper au réel, que ce soit et dans le sport et dans la musique ?
Oui, oui, c'est vrai, il y a ça aussi qui est en commun. Ouais, ouais, il y a une vie, disons, condensée, plus grande que nature, qui échappe au quotidien. Après, il y a le spectacle aussi. Le spectacle, disons qu'on ne vend pas la même chose. Le sport, c'est plus basé sur vraiment la pure excitation, en fait.
Oui.
Mais si un concert il n'est pas excitant, il est ennuyant aussi. Donc l'excitation, c'est aussi quelque chose qu'on partage.
Alors Arthur Ashe, autre métaphore, autre parallèle pour vous, je crois savoir, entre le foot et l'enfance. Pour vous, ça vous renvoie vraiment au temps de l'enfance, le foot ?
Oui, c'est un foot très populaire, très basique. Dans la rue, quoi, avec toujours une balle, un peu finalement, parce que moi je suis déjà, maintenant je suis très ancien.
Non, ça va.
Quand j'étais petit, c'était quand même les années 70. Et du coup, Paris était complètement différent et les enfants pouvaient jouer au foot dans la rue.
C'était
normal, quoi. Ouais. Maintenant ça n'existe plus, ça. Il y a des terrains de sport un peu partout, mais c'est. Mais nous, c'était vraiment, voilà, on avait toujours un ballon avec nous, on traînait en bande, c'était dans le Marais,
oui.
À Saint-Paul, à Paris, à une époque où le Marais était un quartier très populaire. C'était pas du tout un quartier chic, mode et tout ça, absolument pas.
Mm-hmm.
Il y avait plein de ruines, il y avait du terrain vague, il n'y avait rien qui avait été rénové, donc tous les hôtels particuliers étaient ou abandonnés ou à moitié en ruine. Et voilà, on jouait au foot dans les terrains à vagues.
C'était l'époque où la rue nous appartenait, hein, peut-être un peu plus.
Ouais,
ouais,
et
c'est ça.
Puis,
ouais.
Puis les parents, ils savaient pas où on était. Ils étaient confiants, ils s'en foutaient d'ailleurs.
Et je crois savoir, Arthur Ashe, parmi vos héros d'enfance, justement, comme vous le dites à la fin des années 70, il y a celui que l'on surnommait l'ange vert, avec sa longue chevelure bouclée. Là, écoutez, nous sommes en 1976.
Vous n'étiez pas professionnel en juillet dernier, ça ne vous grise pas un peu le succès ?
Non, pas du tout, non. Disons, dans le contexte de Saint-Étienne, il n'y a pas de vedette, on est tous copains et je crois que c'est ça l'important, c'est une équipe avant tout.
Vous dites que vous êtes un célibataire très recherché, c'est vrai ?
Ah. C'est peut-être ce qu'on dit.
Vous recevez beaucoup de courriers, non ?
Oui, énormément.
Ça vous a surpris au début ?
Oui, un peu, bien sûr, surtout qu'il y a des lettres plus ou moins, disons, assez marrantes.
Est-ce que vous avez l'impression que Saint-Étienne peut se qualifier pour la finale? Est-ce que l'équipe en est persuadée?
Je crois que l'équipe en est persuadée. Et moi, j'en suis plus, disons, pas certain, mais enfin, je crois qu'on a de bonnes raisons de penser qu'on pourra se qualifier.
Les joueurs y croient, les supporters y croient, alors pourquoi ne pas y croire?
Allez les Verts, allez Dominique Rocheteau, joueur emblématique de la AS Saint-Étienne, les fameux Verts avec lesquels il fut d'ailleurs champion de France au milieu des années 70, Arthur Hache. Vous vous en souvenez de Dominique Rocheteau, justement, à cette époque-là?
Oui. C'est vrai qu'en fait, c'était pas vraiment mon héros, c'est-à-dire que c'était mon héros parce que c'était le héros de tout le monde, en fait.
Oui.
C'était tout... Surtout, on collectionnait les fiches Panini là, avec les joueurs de foot. Mais je suis pas certain que à la maison, j'ai aucun souvenir d'avoir regardé des matchs, d'être passionné pour les matchs et tout ça. Il n'y avait pas ça comme aujourd'hui. Enfin,
comme aujourd'hui. Bah, mais ce qui est marrant, c'est que vous l'entendez, il est tout jeune, hein, il est tout gamin, il a l'air assez timide. Ouais. Hein, d'ailleurs, il a toujours dit que lui, les caméras, c'était pas son truc, alors qu'on parlait d'une vraie Rocheteau-mania. Il dit, il n'y a pas de vedette, on est tous copains. On est loin quand même du foot d'aujourd'hui, très business et vedette quand même. Hein.
Bah, en fait, une grande partie de leur succès était due au fait que c'était des anti-héros, justement. C'était des beautiful losers, quoi, des perdants magnifiques, qui d'un coup devenaient des gagnants. Donc, ils étaient extrêmement attachants. Et ils partaient de rien, ils n'avaient pas la grosse tête. Et effectivement, oui, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ce n'est pas des stars mondiales, ils sont multimilliardaires, millionnaires. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le mec de base qui a une bonne gueule, qui est chouette, qui a du cœur. Et voilà, c'est ça, c'est très simple.
Ouais. Alors qu'aujourd'hui, vous comparez le foot à la Chine. Enfin, j'ai cru voir dans une interview, vous comparez le foot à la Chine dans sa démesure. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Arthur Hache?
Alors, je ne sais pas trop ce que j'ai dit. le foot, c'est vrai que parfois, c'est magnifique quand il y a des belles actions et tout ça. C'est un sport collectif, ça, qui est chouette. Par contre, c'est vrai que l'engouement pour le football est quand même absolument démesuré, quoi. C'est un énorme business. Les trucs au Qatar, c'était quand même impossible, quoi. C'est un milieu aussi, je le crains, qui est très corrompu à son plus haut niveau parce que ça brasse trop, tout simplement trop d'argent, en fait. Hein.
Trop de business, parfois. Allez, c'est le chanteur Arthur Hache, notre invité dans De Vive Voix. Arthur Hache, parlons boxe avec ce combat du siècle. Là, nous sommes le 30 octobre 1974 à Kinshasa, c'est la capitale du Zaïre hein, à l'époque. Et c'est la rencontre historique entre les deux poids lourds les plus réputés des États-Unis. D'un côté, Mohamed Ali alias Cassius Clay et de l'autre, George Foreman. Voilà ce que déclarait Mohamed Ali la veille du match.
J'ai dit hier soir, j'ai fait un rêve quand je suis arrivé en Afrique. J'ai fait une bagarre d'enfer. Je devais battre Tarzan avant de prétendre être le roi de la jungle. Pour ce combat, je me débattais avec les alligators, affrontais une baleine. J'ai menotté la foudre et mis le tonnerre en prison. Vous savez, je suis mauvais. J'ai assassiné un rocher, j'ai blessé une pierre et hospitalisé une brique. Je suis si mauvais que je rends malade la médecine. Je vais si vite que je peux courir à travers un ouragan sans me mouiller. Quand George Foreman me rencontrera, il paiera sa dette. Je peux noyer un verre d'eau et tuer un arbre mort. Attendez, vous allez voir Mohamed Ali.
Wait till you see Mohamed Ali.
Et on a vu Mohamed Ali, le roi de la jungle, à 32 ans, il remporte le titre de champion du monde face à Foreman. Alors Arthur Hache, vous qui aimez les mots, comment vous l'entendez là? Il y a un côté incroyable, Mohamed Ali.
Oui, bah, je peux le comprendre. Moi aussi, j'ai hospitalisé quelques briques. Non, mais il y a un film qui a été fait, il y a un livre de Norman Mailer, et puis il y a un film qui s'appelle When We Were Kings. Et c'est vrai que Mohamed Ali est un personnage vraiment extraordinaire. Moi, je considère que c'est à ce niveau-là, c'est vraiment un artiste, en fait. C'est certes un grand sportif, boxeur et tout ça, mais il y a tellement d'intelligence dans sa façon. Ce film est remarquable parce qu'en fait, George Foreman était plus fort que lui.
Oui.
Et tout le monde était persuadé de sa défaite, et tout le monde avait pitié de lui. Et lui, il y croyait, il avait tout un espèce de plan machiavélique extraordinaire qui était de se laisser taper par Foreman jusqu'à temps que Foreman soit épuisé. Il l'a eu à l'usure, en fait, en lui parlant tout le temps. donc il y a une espèce de tension dramatique dans ce match qui est vraiment extraordinaire. Et puis bon, il y a cette espèce d'élégance qu'il a, cette souplesse, ce côté un peu surnaturel, en fait, chez Mohamed Ali. C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour lui.
Oui, vous en parlez comme un artiste qui sait maîtriser quoi, le temps, l'espace, un peu comme un danseur aussi.
Oui, un danseur, oui, c'en est un aussi. La situation, ouais, le timing.
Puis la personnalité, forcément.
L'excitation, ouais, l'intelligence aussi, son courage aussi politique. Le fait qu'il n'a pas voulu partir au Vietnam, il a dit « j'ai aucune raison d'aller tuer des Vietnamiens ». Et il avait tout à fait raison et on a payé un prix assez lourd puisqu'il a été exclu de toute compétition sportive pendant quand même assez longtemps. Il a failli aller en prison. Mais voilà, et du coup, ça a été une vraie figure morale aussi pour les Noirs américains et puis pour toute la planète.
Ouais, forcément. Bah écoutez, cher Arthur H., en parlant de boxe, tiens, moi, je vous propose qu'on écoute un extrait de La boxeuse amoureuse.
Bah oui.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse, elle absorbe. Boum boum la supercute, un percute son visage, mais jamais elle ne cesse de danser, tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres.
La boxeuse amoureuse, chantée par un certain Arthur H., cher Arthur H., est forcément un titre qui s'inspire de l'histoire de votre mère, hein, on peut le dire, Nicole Courtois, et qui a été une figure de la résistance, hein, de la liberté pour vous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un peu l'expert en métaphore, mais la boxe, c'est une forme de résistance ?
De combat, en tout cas. C'est vrai que... J'ai un ami qui est un vieux boxeur et c'est vrai que chez certains boxeurs, il y a quelque chose d'assez noble, en fait. Alors, j'ai remarqué, j'avais vu aussi un documentaire sur le réunion de vieux boxeurs.
Oui.
Et tous des tronches pas possibles et beaucoup de douceur, en fait. Et c'est des gens, je pense, qui connaissent la vie, en fait. Il y avait une forme d'humilité aussi. Non, c'est un art qui dure, hein, qui est vraiment très très difficile, qui est assez ingrat, je pense. Mais oui, il y a une beauté.
Il y a eu un spectacle, hein, La boxeuse amoureuse, où on vous voit au piano, et puis on voit aussi la chorégraphe Marie-Agnès Gillot qui danse, et ouais, qui invite sur scène le médaillé olympique, hein, de bronze à Rio, de boxe, donc Souleyman Sissoko. C'était quoi l'idée de réunir justement la danseuse et le boxeur?
C'était une idée de Marie-Agnès. Elle avait envie de le transformer en danseur. Et lui, c'est quelqu'un de, comme je disais tout à l'heure, très humble. C'est vraiment gros travailleur et tout ça. Mais il a beaucoup de douceur, en fait. Et puis, il est curieux, donc ça l'a penché d'être sur scène avec nous et de jouer, en fait, de jouer son rôle, le rôle d'un boxeur. Oui. Mais c'était un super moment. Il a vraiment beaucoup de charisme aussi. Hein. Il donne pas l'impression d'être quelqu'un d'extrêmement costaud, ni méchant, tout ça. Mais il a une vivacité, je pense, qui est vraiment exceptionnelle.
Avec l'idée aussi de, quelque part, convoquer et les gants de boxe et les ballerines. On a l'impression qu'on est dans deux univers totalement différents.
Oui, c'est comme c'est la boxeuse amoureuse. C'est des contraires qui s'attirent et qui fonctionnent bien.
Et ça termine bien à la fin. On a besoin de Happy End à la fin. C'est ça.
Hein ouais.
Allez, c'est Arthur H, l'invité de Vive Voix. Et nous sommes toujours en compagnie du chanteur Arthur H. Alors forcément, en tant qu'artiste, vous rassemblez autour de vous des gens lors de vos concerts. Comment vous regardez d'ailleurs cette ferveur populaire que provoquent les grandes manifestations sportives?
Personnellement, je ne suis pas très fan parce que je suis allé à un match de foot une fois. Et alors je comprends la ferveur, tout le monde ensemble, mais j'ai trouvé ça très, très hystérique, en fait. Une espèce de défouloir comme ça, mais qui est assez primal, quoi. Un peu archaïque et j'avoue que ça me rappelle d'autres formes de cérémonies, comme ça, de masques. Je ne suis pas très fan.
C'est-à-dire que quoi, l'esprit supporte?
C'est pas mon truc, moi. Non. Autant, je sais l'excitation que peut provoquer un match de foot, qu'on est pris dedans. Mais la foule, être pris dans la foule comme ça, cette espèce d'énergie collective, de masse, où tout le monde fait la même chose au même moment. Par exemple, il y avait à un moment, au Parc des Princes, il y avait vraiment tout le stade, il y avait 30 000, 10 000, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais c'était énorme, qui insultaient l'arbitre ensemble. Et ça, c'est vraiment bizarre, quoi, quand même.
Mais pourtant, on peut dire que voilà, il y a quand même l'esprit fan, hein, dans la musique qui existe. En quoi c'est pas l'esprit supporteur chez les sportifs alors?
Non, mais il n'y a pas énormément de différence avec les grands festivals de musique, les grands machins où il y a 100 000 personnes. C'est pas très différent. C'est ni des expériences vraiment sportives ni artistiques. C'est juste des foules ensemble. C'est autre chose, quoi. C'est une énergie de groupe. Finalement, le prétexte n'est pas si important que ça, quoi.
Alors, en parlant des foules ensemble, vous allez nous dire si cette foule-là, ou ce grand moment-là, comment vous l'avez vécu? On est en France, et forcément, quand on parle de ferveur populaire, c'est la Coupe du monde de foot que remporte l'équipe de France face au Brésil. On est le 12 juillet 1998.
Marseille était folle amoureuse. Des plages du Prado au Vieux-Port, plus de 60 000 personnes ont acclamé leur héros, le roi Zidane, qui, avec les Bleus, a mis le feu à Marseille.
En feu aussi, le nord de la France. Les Lillois savourent leur bonheur, les pieds dans la fontaine de la déesse, et expriment leur gratitude. Des danses, des farandoles ininterrompues, place du Général de Gaulle, jusqu'au petit matin.
À Bordeaux, David Dugarry, le frère de Christophe, n'a plus d'ongles. Il lui aura fallu le troisième but pour vraiment y croire.
On est champion du monde! On est champion du monde!
À 5000 km de là, un cortège s'improvise en plein après-midi. La Guadeloupe fête l'un des siens, l'île Anturam, qui a fait merveille en métropole.
Dans l'ancienne patrie de Carambeu, à Nantes, on a aussi compris que le jour de gloire du football français était arrivé. L'étendard de la victoire flotte sur une ville, persuadé que le Père Noël est kabyle, un peu chauve, et qu'il passe le 12 juillet.
Et de Marseille à Paris, à chacun ses héros. Zidane à Marseille, Lilian Thuram en Guadeloupe. Arthur H, ce fameux 12 juillet 1998, vous vous souvenez où ce que vous étiez, vous? Vous qui n'aimez pas trop la foule.
Je me souviens d'un moment vraiment absolument magnifique. Ouais. Après, les matchs étaient aussi extrêmement dramatiques. Puis, si on considère que Mohamed Ali est un artiste, que je considère Zidane aussi. Zidane, il avait quelque chose d'un peu surnaturel, comme ça, très calme, à faire des mouvements vraiment magnifiques, pensés, très collectifs et tout ça. Donc, il y avait une beauté de jeu que j'ai pas rarement retrouvée après. Après, il y avait le côté Black Bomber qui était aussi vraiment génial, une espèce de réconciliation nationale comme ça, qui était aussi très porteur, très enthousiasmant. Bon, après, il y avait la fête dans la rue, complètement délirante, quoi. Et c'était vraiment un vent de folie collective, mais du coup, qui était assez joyeux. Et oui, c'est un beau souvenir.
Donc là, c'est une foule festive qui vous effraie pas, parce que tout à l'heure...
Non, parce que les gens étaient tellement contents. Après, avec le foot, on n'est jamais loin de l'hystérie. Hein. Des fois, c'est vraiment limite. Puis après, il y a ce côté complètement absurde de la joie extrême des gagnants et du désespoir des perdants. Ça peut jouer à rien, un pénalty... Il y en a qui pleurent, qui sont effondrés, d'autres qui sautent de joie, comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Enfin, j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans ces émotions comme ça, tellement puissantes. Quoi. Je n'arrive pas à comprendre vraiment.
Arthur H., comment vous vivez le fait que, par exemple, on le sait, hein, les footballeurs ou les influenceurs sont les idoles des jeunes générations, pas forcément les chanteurs ou les artistes comme vous. Comment vous le vivez et comment vous l'expliquez?
Moi, je suis obsédé par le son, le silence, la poésie. Donc forcément, c'est moi, fatalement moins populaire. Mais je ne me l'explique pas trop, les influenceurs, les footballeurs et tout ça. Je trouve que c'est des phénomènes de masse quoi, dans la société. On a de conformisme aussi, hein, de conformité, le désir de ressembler, que ce soit tous... la même chose. Quoi.
Et désir peut-être aussi de réussir, de s'en sortir.
Oui, il y a ça aussi. C'est vrai que le foot, socialement, c'est très important. Hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir de milieux très très modestes et qui peuvent aller tout en haut. Et ça, c'est chouette.
La fameuse ascension sociale, où on sait que la notion de méritocratie, de mérite, est peut-être compliquée, hein, inaccessible pour beaucoup de jeunes. Allez, on continue à parler musique, chansons et sport avec le chanteur Arthur H. C'est le chanteur Arthur H. qui nous accompagne dans De Vive Voix. Arthur H., comment vous expliquez que dans notre culture française, quand même, il y a souvent un petit stéréotype ou des préjugés qui consistent un peu à opposer le culturel, l'intellectuel et le sportif?
Ça vient de l'école, sûrement. Hein. Ah. Même le scientifique, le littéraire, tout ça, c'est vrai que c'est très... les choses sont très séparées. Personnellement, je trouve ça vraiment stupide. Quoi. Je trouve que le sport à l'école, c'est pas du tout pris au sérieux, alors que c'est capital. Dans les pays anglo-saxons, c'est plus important. Puis la musique aussi. Dans les collèges américains, tu sais, il y a des super orchestres ou fanfares très très bonnes, des musiciens qui sont pas professionnels. Mais ça leur donne le goût de la musique, le goût de la discipline, le fait d'être ensemble. Le sport, c'est pareil. Mais nous, ouais, on est un peu prétentieux. Il n'y a que les choses de l'esprit qui ont de valeur et tout le reste est un peu dégradant, populaire et tout ça. Je trouve que c'est une erreur assez fondamentale. Mmh.
Quel parallèle vous faites, je reviens toujours avec le sens des métaphores, entre l'athlète et le chanteur que vous êtes? Parce que quelque part, vous êtes en devant de la scène, hein, c'est vous, mais en même temps, c'est un travail collectif aussi.
Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de points communs, parce que déjà, il y a ce désir qu'on a très profond de sortir le meilleur de nous-mêmes, de travailler tout le temps, son truc de repousser ses limites et tout ça, cette espèce de ce côté très très obsessionnel. Et puis après le côté évidemment très collectif, bien sûr, c'est pas un truc que tu fais, enfin tu peux faire de la musique tout seul chez toi, mais c'est vraiment un art ou un sport collectif. On dépend de beaucoup de choses et plus c'est collectif et plus tu peux aller loin.
Quoi. C'est ça. Pour terminer, un petit quiz, hein, comme à chaque fois avec nos invités, pour savoir un petit peu quel type de sportif vous êtes. Vous continuez à taper dans la balle, à faire du jogging ou pas du tout, vous d'ailleurs?
Ni l'un ni l'autre, mais je fais des, je sais plus comment ça s'appelle, Animal Flow, là, c'est des trucs qu'on fait au sol, comme ça, des mouvements d'animaux. Ça,
j'aime ah bon ça.
Ouais, ouais, ouais. Et puis quand je suis à la campagne, bah, je vais voir mon ami, là, un vieux boxeur qui m'entraîne, et ça, j'adore ça, vraiment. Il m'apprend à taper contre un sac et tout ça. Je suis très très mauvais, mais évidemment. Mais par contre, j'avoue que c'est extrêmement jouissif à faire et ça fait beaucoup de bien. Quoi.
Non, pardon, j'étais en train de vous imaginer, en train de mimer un animal sur le sol. J'avais un peu de mal là.
Oui. Non, mais faut, bien sûr.
L'imaginaire.
L'imaginaire. Du serpent au kangourou, l'éléphant, je fais tous les animaux.
D'accord, je vois le genre. Donc, petit quiz rapide. Pour vous, l'essentiel, c'est de participer ou c'est de gagner?
De participer.
Vous êtes plutôt du genre aller directement au but ou prendre le temps du temps et être endurant?
Bah, je trouve que l'endurance est quand même une énorme qualité, absolument indispensable.
C'est quoi la beauté d'un geste pour vous, Arthur Hache?
Forme de spontanéité, de je sais pas, d'élégance, élégance naturelle.
Votre rôle préféré au sein d'une équipe ou d'un groupe, leader, compétiteur, coéquipier?
Malheureusement, j'ai honte de le dire, mais bien que leader quand même.
Mais assumé.
Bah oui, chanteur, c'est un peu leader, quoi.
Un peu,
compositeur, ouais. Ouais.
Et pour finir, la plus belle valeur du sport, alors, pour l'artiste que vous êtes?
Bah, je dirais la plus belle, la fraternité.
Et ben voilà, on restera sur ce joli mot-là. Merci beaucoup, Arthur Hache, d'avoir joué le jeu, de vous raconter
beaucoup
à travers le sport. Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Corosila, Gokele Mabi Molu, Konimake, Adouteke, Kamouchonke Alimamini, Omake.
C'est Bokea Bambino sur RFI de Livoire. C'est fini, merci à toute l'équipe olympique. Sophie Jeannin à la réalisation, Mehdi Jaziri et Chloé Gomez à la rédaction. On se retrouve demain à la même heure avec l'animateur de TD, Michel Drucker, qui nous racontera sa passion pour le cyclisme, pour tous les forçats de la route et les porteurs d'eau qui ont inspiré tant et tant de chansons françaises. Excellente journée à l'écoute de RFI et on se retrouve dès demain.